Nous vous proposons maintenant d'écouter la suite du cycle de conférences sur la prière selon saint Augustin par le père Michel Leclerc, donné à Pau le 27 février 2026.
Je voudrais aujourd'hui finir. Alors, je vais essayer de rappeler l'importance capitale qu'a pour saint Augustin le Christ, la personne de Jésus. Pas parce qu'il aime bien Jésus. Vous voyez, c'est pas une question affective. Ici, c'est vraiment une question théologique, c'est une question d'être. Pourquoi saint Augustin met-il le Christ au centre? Si vous voulez comprendre, vous relisez ce qu'a dit Léon XIV le lendemain de son élection comme pape, devant tous les cardinaux, dans la chapelle Sixtine. Son homélie de ce jour-là est tout entière centrée sur le Christ. Et de mémoire, il dit... c'est le centre de son homélie. Il rappelle que la parole de Jésus à Saint-Pierre « Et pour vous, qui suis-je ?» Et la réponse de Saint-Pierre « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Donc, profession de foi de Saint-Pierre. Et Léon XIV commente en disant « Le Christ est l'unique rédempteur. Il est l'unique sauveur. » C'est pour ça que nous ne pouvons pas nous passer de lui. Et c'est vraiment important, saint Augustin, là, il en parlera toute sa vie. Et c'est pour ça qu'il a combattu contre les hérésies, en particulier contre les pélagiens, qui voulaient que la grâce qui nous vient de Jésus soit considérée comme non nécessaire. C'est d'abord parce qu'il a une conscience très vive, très absolue, que nous sommes sauvés par le Christ et par personne d'autre. Il n'y a pas d'autre salut que le Christ. Saint Bernard dira, il est non seulement notre sauveur, mais il est notre salut, le Christ. Et pour ça, j'aimerais remettre en place ce qu'est le Christ comme rédempteur. Pourquoi le Christ est l'unique sauveur, l'unique rédempteur? Parce qu'il nous a rachetés par le sacrifice, le seul sacrifice qui nous unit à Dieu, dira saint Augustin. Et c'est vraiment une chose qui, nous, dans notre mentalité moderne, nous est étrangère, la notion de rachat, de salut, de rédemption et de sacrifice. C'est ce que j'aimerais mettre en place là dans la première partie d'aujourd'hui. C'est vraiment cela. C'est capital de bien le comprendre. Vous voyez, nous avons, dans notre psychologie contemporaine, un rapport avec le Christ qui est d'abord un rapport affectif. C'est la personne de Jésus nous est... elle nous touche, elle nous est sympathique, ce qui est très bien. Mais ça ne sauve pas l'humanité. Et ce n'est pas d'abord ça qui est en cause. Et vous voyez, si Jésus nous disait à nous « Et pour vous, qui suis-je ?», que répondrions-nous ? On pourrait répondre, tu es une personne très sympathique, tu es un visage qui me touche, tu es celui qui a enseigné les évangiles qui me font du bien. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais je dis que c'est très insuffisant. Serions-nous capables de dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, et donc tu es celui qui me sauve? Alors, pour être sauvé, il faut être perdu. Et donc, il faut commencer par prendre conscience que nous sommes perdus. Et vous voyez, c'est ça que je voudrais vous exposer aujourd'hui. Et Augustin, pourquoi il en a une si vive conscience? C'est parce qu'il l'a expérimenté dans sa chair qu'il était perdu. Vous voyez, toute la première partie de sa vie, avant sa conversion, Augustin souffre radicalement parce qu'il fait l'expérience de la perdition. Qu'est-ce que je veux dire par la perdition? C'est qu'il fait l'expérience qu'il est seul. Il est malheureux, que sa vie ne va nulle part, elle n'a aucun sens. Et il dira alors à la fin de sa vie, notamment quand il méditera sur l'enfer, pas au sens de l'enfer qui nous menace, vous voyez, une sorte de... ça serait un discours qui serait fondé sur la peur. Mais pour lui, l'enfer, c'est l'état dans lequel je me mets moi-même en me coupant de Dieu et des hommes, et dans lequel je m'enferme. L'enfer, c'est l'enfermement volontaire dans un état de solitude. Et Augustin l'a comme expérimenté dans sa chair, dans sa psychologie, dans tout son être. Et donc, il fait l'expérience que, voilà, il a grandi coupé de Dieu. Et donc, dans cette solitude, et dans un monde où il n'est pas en relation avec Dieu, bah, qu'est-ce qu'il fait ? Il tourne, il fait des détours, et c'est toute l'histoire de sa vie. Il va chercher dans la gloire, dans le théâtre, dans la débauche, dans l'ambition, des moyens de donner un sens à sa vie, et tout le déçoit. Rien ne l'apaise. Et après, ce sera intellectuel, il va chercher dans les idées un salut, et il ne le trouve pas. Et il faut qu'il accepte que Dieu lui-même est venu jusqu'à nous, c'est l'incarnation, et que ce qui fait le lien entre Dieu et l'homme, c'est la croix. Je suis très fier de mon petit dessin. Il y avait tout un teaser qui arrivait jusqu'au truc. Donc, mais ça, c'est capital de le comprendre. Pourquoi il dit le sacrifice de la croix est le centre du monde, le centre de la cité? Parce que c'est le sacrifice qui nous unit à Dieu. Alors, c'est la définition qu'il donne du sacrifice. Le vrai sacrifice est toute œuvre qui nous unit à Dieu. Ce qui est une définition un peu surprenante. Qu'est-ce que c'est qu'un sacrifice ? Le sacrifice, voyons, on va prendre dans l'Ancien Testament, je fais l'expérience que je suis coupé de Dieu, que font Caïn et Abel ? Ils offrent quelque chose à Dieu. Alors l'un un animal, l'autre des fruits. La lecture traditionnelle juive dit des fruits pourris et mal choisis. Mais bon, peu importe. Mais le sacrifice, c'est une tentative que fait l'homme pour essayer de retourner à Dieu. Comment ? En offrant quelque chose de ce monde, je prends quelque chose de ce monde et je le fais passer du côté de Dieu. Ça devient sacré. Sacrifice, vous entendez la racine, faire sacré. Sacum facere, rendre sacré quelque chose, c'est-à-dire le faire passer du côté de Dieu. Et cette notion, elle structure tout l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Le Christ vient assumer de manière délibérée cette notion d'offrir quelque chose à Dieu pour nous unir à lui. Et voyez, nous, dans la pensée moderne, disons du 19e, 20e siècle, sacrifice, c'est devenu un petit effort que je fais, un petit effort moral. C'est enlever un sucre dans le café, c'est supprimer le dessert, c'est les sacrifices de carême. C'est un sens dérivé qui n'est pas faux. Mais cœur de la notion de sacrifice, c'est une offrande faite à Dieu pour m'unir à lui. Et c'est la réaction naturelle dans toutes les religions, de tout homme et de toute femme, face à Dieu. Face à Dieu, qu'est-ce que je fais ? J'ai un sentiment d'abord d'adoration. Les auteurs, qui ne sont pas des auteurs chrétiens, hein, disent il y a devant la grandeur de Dieu. Bon, il y a dans toutes les religions, l'expérience religieuse, c'est j'ai le sentiment qu'il est infiniment loin. Donc, j'ai à la fois un peu peur, pas d'une peur terrible, mais je suis effrayé, j'ai un sentiment de révérence, de respect, mais aussi un sentiment d'attirance, parce que je sais que ce Dieu est bienveillant. Et il est à la fois très loin et attirant. Et donc, pour résoudre cette tension, j'offre quelque chose à Dieu. Qu'est-ce que je peux lui offrir ? Ce que j'ai sous la main, la création. Alors, il y a les tentatives déviées, le sacrifice humain. Pour prouver à Dieu que je l'aime beaucoup, je vais lui offrir mon fils. Et vous voyez, justement, avec le sacrifice d'Isaac, là, on a vu ça la dernière fois avec ceux qui suivent le cycle sur Vatican II, Dieu enseigne à Abraham qu'il ne veut pas de sacrifice humain. Ce qu'il veut, c'est un cœur qui s'ouvre, un cœur qui fait confiance. Mais donc voilà, la notion de sacrifice, elle est capitale dans ce sens-là, une offrande faite à Dieu, pour m'unir à lui. Et Augustin dit, il n'y a qu'une offrande qui pouvait vraiment m'unir à Dieu, c'est l'offrande du Christ. Pourquoi ? Parce que habituellement, j'offre à Dieu quelque chose qui n'est pas moi, quelque chose que j'ai. J'offre mon bélier, j'offre mon bœuf, j'offre les fruits, j'offre mon argent, j'offre quelque chose. Et le Christ vient nous apprendre que ce que nous avons à offrir, c'est nous-mêmes. Parce que dans le sacrifice de la croix, Jésus n'offre pas quelque chose, il s'offre lui-même en sacrifice. On entre dans le carême, on va bientôt entendre tout le, pendant le temps de la Passion, les textes d'abord des prophètes, puis de saint Paul sur le Christ qui s'est offert lui-même en sacrifice. Et pour saint Augustin, le sacrifice de la croix est le seul sacrifice vraiment efficace, le sacrifice verissimus, le sacrifice très vrai, on pourrait dire le seul sacrifice authentique, complètement authentique, parce que, dit-il, dans ce sacrifice, il n'y a pas de différence entre celui qui offre et ce qui est offert, c'est-à-dire que le Christ s'offre lui-même en sacrifice. Et donc, vraiment, la croix permet ce lien entre Dieu et l'homme. Elle ouvre la séparation. La croix est la clé qui ouvre la porte entre Dieu et l'homme. Alors, ça c'est très important de bien le comprendre, parce que l'étape suivante, c'est de dire toutes nos prières, si elles touchent le cœur de Dieu, passent par le cœur du Christ. Elles sont assumées. Si je prends une image, il faut que ma prière passe par le cœur ouvert de Jésus pour monter vers le Père. Vous voyez, la porte de ma prière, c'est le cœur ouvert de Jésus sur la croix. Il n'y a pas de prière, je mets des guillemets, efficace. Efficace non pas au sens où elle est exaucée, hein, on en a parlé la dernière fois de ça, mais efficace au sens où elle me met en relation avec Dieu, qui ne passe par le cœur de Jésus. Donc vous voyez, c'est capital. Alors je vous fais remarquer qu'on le dit à la messe à chaque fois. Chaque fois qu'on finit une oraison à la messe, l'oraison de collecte au début de la messe, par Jésus-Christ notre Seigneur. Et puis on amplifie plus ou moins selon les jours ou le type de par Jésus-Christ notre Seigneur qui règne avec le Père Dieu pour les siècles et les siècles. Amen. On est tellement habitués que c'est une formule rituelle pour nous. Mais nous ne pouvons prier que par Jésus-Christ notre Seigneur. Toutes nos prières devraient s'achever par ce mot, par le Christ notre Seigneur, par Jésus-Christ notre Seigneur. Pourquoi ? Pour dire, ma prière à moi, je ne prétends pas qu'elle fasse ça, ni ça. Elle vient passer par le Christ pour toucher le cœur du Père. Et voyez, toute prière, toute volonté de ma part d'être unie à Dieu se fait par le Christ. Il n'y a pas d'autre nom par lequel nous puissions être sauvés, mais il n'y a pas d'autre nom, on pourrait dire, par lequel nous puissions prier, vraiment. Donc, c'est pour ça que Jésus dit « Tout ce que vous demanderez en mon nom, cela vous sera donné. » Alors, on a vu, cela vous sera donné en quel sens, la dernière fois, sur exaucé, oui, non, comment, pourquoi pas, pourquoi certaines fois on a l'impression de ne pas être exaucé. Mais surtout, je voudrais qu'on parte bien là-dessus, il n'y a pas de prière authentique qui ne soit une prière en Jésus-Christ. Ce qui fait que plus notre prière s'identifie avec celle du Christ, plus elle est authentique. Et ça va nous permettre d'avancer un peu. Je vous donne quand même une citation. Notre Seigneur Jésus-Christ, unique sauveur de son corps mystique, c'est l'Église. Donc notre Seigneur Jésus-Christ, unique sauveur, prie pour nous, il prie en nous. Il prie pour nous comme notre prêtre, il prie en nous comme notre chef. Alors, parce que je fais un petit retour en arrière pour bien poser les choses. Il prie pour nous. Voilà. C'est ce qu'on appelle la médiation descendante. Il prie en nous comme notre chef. C'est-à-dire, c'est tous les hommes qui sont ici, ils ont un chef. Un chef, c'est au sens à la fois le chef, celui qui commande, et le chef, c'est la tête. Nous formons un seul corps, l'Église, dont la tête est le Christ, et nos prières On peut dire qu'elles sont uniques, c'est la prière du Christ. Alors, ça va me permettre, voilà, je voulais reposer ça, on l'avait déjà vu un peu rapidement au début, je repose ces bases un peu plus doctrinales pour nous permettre de comprendre le rapport entre ce qu'on appelle la prière privée et la prière liturgique, ou prière publique. Ces deux grandes formes de la prière. C'est vraiment important de le comprendre parce que sinon on peut dévier l'une et l'autre. On pourrait dire la prière privée, c'est la prière perso, la prière personnelle, c'est là où je m'exprime. Mais le but de la prière, si vous avez un peu compris ça, c'est pas de s'exprimer soi-même. Si je veux m'exprimer, je fais un poème. Je peux aller parler à un ami, parler à un écoutant, un psychothérapeute, tout ce que vous voulez, ce qui est très bien. Je m'exprime, je dis ce qu'il y a en moi. Le but de la prière, c'est pas de m'exprimer. Vous voyez, c'est pas de faire sortir à l'extérieur ce qu'il y a en moi. Le but de la prière, c'est quoi ? C'est d'entrer dans la prière de Jésus lui-même. Et là, il y a là quelque chose de très spécifiquement augustinien. Saint Augustin dira, quand tu pries, retourne dans ton cœur ce qu'exprime ta voix. Alors, je vous explique. Par exemple, je prends les psaumes et je vais lire le psaume 50. « Pitié pour moi, Seigneur, pitié, car je suis pécheur, etc. » Et il nous dit, saint Augustin, « Retourne dans ton cœur, c'est-à-dire fais rentrer dans ton cœur ce qu'exprime ta voix. » Nous, assez naturellement, à notre époque, on dirait l'inverse. On dirait « Mets sur tes lèvres ce qu'il y a dans ton cœur. » Vous voyez, c'est un gage de sincérité. Si je dis à l'extérieur ce que je ressens vraiment, je suis sincère. On va dire une prière sincère, c'est une prière qui exprime le cœur. Ben, saint Augustin nous dit l'inverse. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être sincère, mais il nous dit, c'est bien de dire ce qu'il y a dans son cœur, mais le plus important, c'est de mettre dans son cœur les mots mêmes de Jésus, la prière même de Jésus. Vous voyez, il nous propose de modeler notre cœur par une prière que nous recevons du Christ. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas employer nos mots à nous. Ça veut dire qu'il faut les corriger. Je vous donne un exemple. En ce moment, c'est le carême. Donc, pendant le carême, les textes sont plutôt pénitentiels dans la liturgie. Le matin, à l'aude, on n'a pas les psaumes... c'est pas des grands psaumes de louange hyper joyeux, on a des psaumes pénitentiels. Si depuis deux jours, puisqu'on voit le soleil comme un miracle à Pau, il fait beau à Pau, miracle, ben, moi le matin quand je me lève, j'ai envie de dire ah, Seigneur que tu es bon, que tu es beau, il fait 22 degrés, Les fleurs sortent, voilà, j'ai envie de louer, de dire merci mon Dieu, j'ai envie de dire de chanter. Bah, ce jour-là, la liturgie arrive et me dit pitié pour moi, Seigneur, pitié pour moi, dès le sein de ma mère, j'ai été pécheur. Vous voyez le décalage. J'arrive avec, au fond du cœur, ou fait, au fond de ma sensibilité, un peu d'excitation, un peu de joie, parce qu'enfin il va faire beau. Et l'Église me donne, dans la prière liturgique, un texte qui est un texte de pénitence. Et ce que nous dit saint Augustin, il nous dit, l'important, c'est pas comment tu arrives toi, c'est que tu arrives ce jour-là à t'approprier un texte qui est un texte qui dit quelque chose de la prière de Jésus, qui est ici la pénitence. Et donc, vous voyez, osons dire que notre prière la plus intime, c'est pas celle que je ressens, c'est celle que le Christ me donne. Voilà. Et ça, c'est un enseignement majeur d'Augustin, c'est que ce que j'ai de plus intime, ce n'est pas ce que je ressens, c'est ce que je reçois. C'est très libérant. Hein. C'est très libérant. On va le voir pourquoi. Parce que nous avons tendance à confondre ce que nous ressentons avec le fond de notre âme. Vous voyez, ce que nous ressentons envahit tout le champ de notre conscience. Il ne faut pas que je donne d'exemple trop personnel, parce que j'ai appris que c'était diffusé parfois, donc je ne vais pas dire la dernière fois que mes frères m'ont agacé, mais imaginons qu'un frère m'agace. Vous savez, dans la vie commune, ça arrive régulièrement. Et donc, je suis en colère. Un frère m'agace parce que je lui dis on se donne rendez-vous à 14h, et puis je vois qu'à 14h, il est en train de faire autre chose, et qu'il ne bouge pas. Je lui fais signe et il ne bouge pas. L'agacement monte. Et l'agacement prend tout le champ de la conscience. Vous voyez, quand on est en colère, on pense qu'à sa colère. Quand on est triste, on pense qu'à sa tristesse. Mais ça, c'est le champ de la conscience. Ce n'est pas le fond de mon être. Et quand je suis en colère, moi, je vais me dire, je ne peux pas prier. Voilà, il m'a mis en colère, je ne peux pas prier. Pourquoi ? Qu'est-ce qui m'empêche de prier quand je suis en colère ? Qu'est-ce qui m'empêche, à ce moment-là, de dire, Seigneur, pitié pour moi, ou loué sois-tu, Seigneur ? Vous voyez, nous avons tendance à confondre la sensibilité, l'émotivité avec le fond de notre âme. Et Augustin nous dit, c'est pas parce que ton émotivité, ta sensibilité est sur un diapason, sur un ré, que tu peux pas aller au fond de ton âme pour mettre sur le fond de ton âme les paroles du Christ Jésus. C'est très libérant parce que si on n'a pas conscience de ça, les jours où notre sensibilité n'a pas envie de prier, nous disons, je ne peux plus prier. Vous voyez, je pense que ça, on l'a tous fait un jour ou l'autre dans sa vie. On est porté à la prière plus sensible à un certain moment. On a envie d'aller prier. J'ai envie d'aller prier, j'ai envie de passer des heures devant le Saint-Sacrement, j'ai envie de prier avec le psautier. Voilà. Ça se passe bien. Souvent, une retraite, on est porté par les chants, par l'ambiance, voilà. Puis je retourne chez moi, je réouvre mes mails, mes messages, je retrouve les gens avec lesquels je vis, je retrouve mon cadre habituel. Je me dis, impossible de prier. Je n'arrive plus à prier. Et là, on se tourne vers Dieu, on dit, je ne sais plus prier. Je ne peux prier que dans le monastère où je faisais ma retraite. Moi, je me souviens très bien de ce genre d'expérience quand j'étais plus jeune. Bien, c'est bizarre, dès que je suis dans un monastère, j'ai envie de prier, je retourne chez moi, je n'y arrive plus. C'est pas que j'y arrive plus, c'est que ma sensibilité est moins portée. Mais je peux parfaitement prier, simplement ma sensibilité n'est pas au même diapason que le fond de mon âme. Et Augustin nous dit, peu importe ta sensibilité, ce qui compte, c'est que tu saches que le Christ prie, il prie pour toi, donc il peut prier en toi. Approprie-toi les mots du Christ. Et donc ça nous fait comprendre la différence entre la prière liturgique, donc la prière en commun, qui vient nourrir notre prière de manière objective. On dit parfois la prière objective pour parler de la prière liturgique. Elle vient nous nourrir. Elle vient nous brancher sur la grande prière du Christ qui, toute l'année, se déploie. Et notre prière personnelle, j'allais dire la pauvre, qui fait ce qu'elle peut pour suivre, pour vivre au diapason de la prière liturgique. Mais nous avons tendance à faire l'inverse. Vous voyez, j'ai souvent entendu ça, je ne vais plus à la messe parce qu'en ce moment, je le sens plus. Alors, ça peut faire sourire, mais si on a appris qu'il faut sentir pour faire, c'est parfaitement normal, je le sens plus. Je ne vais pas aller à la messe, ça serait un mensonge, ça ne serait pas vraiment spontané, ça ne serait pas sincère. Est-ce que je suis sincère quand je vais à la messe alors que j'en ai pas envie ? Alors, vous allez me dire, moi, je suis curé, je n'ai pas le choix. Mais ce matin, j'en avais pas envie. Ce matin, j'en avais pas envie, j'étais en retard, j'avais deux rendez-vous à la même heure juste après la messe, et au moment d'entrer dans l'église, dans la sacristie, je me suis dit, ce serait quand même beaucoup plus simple de faire sauter la messe. Et est-ce que finalement j'ai fait de la figuration et j'ai pas été sincère? Non. Mais j'ai été sincère d'une sincérité qui n'était pas sensible, qui était donc plus profonde, qui était, ce qu'on a vu il y a plusieurs séances, le désir profond de l'âme. Donc, vous voyez, mon désir, il n'est pas ma sensibilité. Augustin nous a répété ça au début en nous disant « Je t'ai cherché partout, Seigneur. Je t'ai cherché en dehors de moi. Je te croyais dans la nature, mais tu n'étais pas là. Je te croyais dans la beauté, mais tu n'étais pas là. Je te croyais dans le corps des femmes, mais tu n'étais pas là. Je te cherchais en dehors de moi, mais tu étais au-dedans de moi. » Mais il n'était pas dans la sensibilité. Il n'était pas dans l'émotion du jour. Le Christ habite en notre âme en permanence, il crie en notre âme en permanence vers le Père. Et tout notre effort de prière, c'est de descendre en notre âme pour aller nous mettre à l'unisson avec le Christ qui crie en notre âme vers le Père. Donc vous voyez, n'ayons pas peur de ces jours où notre émotivité nous dit « j'ai pas envie, je ne le sens pas ». C'est désagréable, mais ça n'a aucune importance. Alors après, on apprend à gérer son émotivité, on apprend à la calmer, on apprend, voilà, ça je vais le voir dans le temps qui reste, hein, sur la notion des sécheresses et des purifications. Mais ce n'est pas l'émotivité, ce n'est pas la sensibilité qui me dit mon degré d'union à Dieu, et qui me dit la qualité de ma prière. Alors là, je vais sortir un peu du texte de saint Augustin. Il y a deux grandes erreurs possibles, trois erreurs possibles, classiques, c'est de juger sa prière, première erreur, au degré de vibration sensible. Ça serait, je résume, plus je vibre, plus je prie. Et vous savez, j'ai senti là pendant cette adoration, j'ai senti un truc, j'ai jamais prié comme ça. Tu n'as jamais senti comme ça. Mais c'est pas parce que tu as senti la présence de Dieu que Dieu était plus présent cette fois-là. Alors, hyper classique, vous voyez, quand on a un cadre porteur ou un groupe. On fait une veillée de prière avec un groupe qui chante à plusieurs voix. Les chants nous prennent, le palpitant s'emballe. Dieu est là. Non, simplement ma sensibilité ce jour-là a fait l'expérience de la présence de Dieu. Et merci, mon Dieu, c'est absolument nécessaire. Mais Dieu n'est pas plus présent là que dans une église de campagne où il y a une petite chorale de paroisse, où il y a trois personnes très âgées qui font ce qu'elles peuvent et qui chevrotent pour chanter un chant qui n'est pas très joli. Vous avez l'image, hein, voilà. Le Christ est tout autant présent dans l'une et dans l'autre. Et ma prière peut être absolument vrai. Évidemment, c'est quand même beaucoup plus agréable d'avoir les chants, les beaux. Mais ce n'est pas parce que le chant me touche que je prie plus profondément. Donc je ne mesure pas la profondeur de ma prière à l'intensité de ma palpitation cardiaque. Voilà, c'est pas parce que j'ai la chair de poule que Dieu se donne. L'intensité de ma prière, c'est mon union à Dieu à travers le Christ. Deuxième erreur, ça serait de dire « J'ai bien prié parce que j'ai eu de belles idées. » Ça, c'est l'erreur du prêtre qui fait son homélie du dimanche pendant son oraison. Ça arrive qu'on n'est pas, on soit un peu à la bourre et que le dimanche matin, pendant le temps d'oraison, qu'est-ce que je vais leur dire ? Je vais faire oraison sur les textes du jour. Hein, ça, on va mutualiser comme ça. Et puis, on a des belles idées. On se dit, puis merci Seigneur, j'ai fait une très belle oraison. J'ai eu des lumières. Je ne mesure pas la qualité de mon temps de prière aux belles idées que j'ai pu déployer. Parce que les idées, elles sont dans l'intelligence. Vous voyez, l'intelligence, c'est dans ma tête. Alors, ça peut être un effet de la prière. Mais ce n'est pas la prière elle-même. La prière, elle est là. Elle est dans le contact avec Dieu. Donc, ce n'est pas dans l'intensité de la palpitation cardiaque, ce n'est pas dans la beauté des idées que je vais déployer. Troisième erreur, J'ai fait une belle prière parce que j'ai été bien recueilli. J'ai eu peu de distractions. Bon, vous savez, les distractions dans la prière, c'est le problème majeur, continu, voilà, qui sera toujours notre problème. Et nous croyons que parce que nous sommes bien recueillis, nous avons bien prié. Eh bien, ce n'est pas vrai. Alors, les auteurs du Carmel ont beaucoup développé ça. Mais il y a des techniques de recueillement, comme les techniques extrêmes orientales, de yoga ou autres, qui peuvent faire que j'ai le moins de distractions dans l'imagination possible. Est-ce que j'ai bien prié ? Non, j'ai juste été recueilli. Donc le recueillement et le contact avec Dieu peuvent parfois être dissociés. Il arrive que sur une heure d'oraison, on ait, 280 distractions. C'est-à-dire que 280 fois, ma conscience va partir dans l'imagination et revenir à Dieu. J'ai pu faire une excellente oraison à ce moment-là, puisque je suis revenu 280 fois vers Dieu pour lui dire « Seigneur, je t'aime ». Je suis reparti 280 fois, mais je suis revenu 280 fois. Donc vous voyez, ce n'est ni l'absence de distraction, ni les émotions, ni les belles idées qui font la qualité de la prière. La qualité de ma prière, c'est mon entrée par la foi, l'espérance et la charité dans la prière du Christ lui-même qui m'unit à Dieu. Voilà. Ça, c'est capital. Vous allez me dire, et du coup, est-ce que je peux juger de la qualité de ma prière ? Non. Nous sommes définitivement mauvais juges de la qualité de notre prière. Et moi, je me souviens d'avoir accompagné une dame assez âgée, elle était du sud, là, de Narbonne, qui me disait « Je ne prie pas, Père, je ne prie pas. Le matin, je fais une heure d'oraison, puis je dis mon chapelet. » Mais je ne prie pas, je ne sais pas prier. Et voilà. Et, alors, cette âme, c'était une dame, c'était une très belle âme, très contemplative. Et elle avait l'impression de ne pas prier. Elle passait à peu près 3 heures ou 4 heures par jour en prière vraiment contemplative, elle avait l'impression de ne pas prier. On n'est jamais juge pour soi-même de sa prière. Dans l'ordre de la prière, on ouvre son âme pour essayer d'entrer dans ce mouvement qui nous conduit vers le Père. Et c'est tout. Voilà. Alors ça pose la question, donc là j'ai ouvert le chapitre des distractions, sécheresse, purification. Je vais essayer de faire la différence. Une distraction, c'est quoi ? C'est un moment où ma conscience est attirée par les sens, c'est-à-dire soit par les sens externes, soit par l'imagination. Je rentre dans la chapelle, je me mets à genoux, je dis « Seigneur, je t'adore, présent au tabernacle. » Tiens, quelqu'un a bougé le bouquet de fleurs. voilà. Et, ah ben, et ça doit être le père. Ah non, c'est pas le père machin. « Seigneur, je t'adore, présent au tabernacle. » Mais il n'a pas passé le balai. Vous voyez, c'est tout ce que je vois. Et c'est assez habituel dans notre prière, hein, où de dire, tiens, il y a un joli rayon de soleil à cette heure-là, ah, c'est pas mal, il faudrait que je le note. Et puis aujourd'hui, j'ai Saint-Augustin, il faut quand même que je regarde un peu mon cours. Voilà. Vous voyez, c'est tous mes allers-retours entre la mémoire, l'imagination, qui vont occuper le champ de la conscience. La distraction, elle est inévitable. Qu'est-ce que j'en fais ? Une occasion de choisir de retourner au Seigneur. Point. C'est une occasion, dès que je m'aperçois que je suis distrait, je dois pouvoir dire, Seigneur, je suis là pour toi, donc je reviens à toi. Le temps que ça durera. Et ça peut durer, selon les jours et les périodes, 2 secondes ou 10 minutes. Distraction. Deuxièmement, les sécheresses. Les sécheresses, c'est justement cet état dont je parlais tout à l'heure, où je n'ai pas l'impression de prier. Comme ma sensibilité est larguée, je me dis, je suis là, mais je prie mal. Je prie pas. Ça va pas. Je suis pas content de ma prière. Je suis pas satisfait de ma prière. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas ce retour qui fait que j'ai l'expérience d'une belle prière. Et dans notre vie, il y a des périodes de sécheresse nécessaires, on verra, ce sont les purifications, et des périodes de sécheresse que nous provoquons nous-mêmes. Donc il faut différencier les deux. La sécheresse que nous provoquons, c'est que notre sensibilité, nous ne l'avons pas préparée. Donc, si je regarde tous mes messages sur le téléphone, tous ceux de appel manqué, abbé Pierre Aranmuru, à 14h35, j'ai dû arriver en retard quand même. Je vois après conseil, abbé Louis-Marie Rinoz, père machin. Bon, si je regarde tout ça juste avant de prier, quand je ferme, je ferai ça tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait rentrer dans ma sensibilité toutes ces sollicitudes, toutes ces inquiétudes, et donc évidemment ma sensibilité n'est pas prête. Et elle ne pourra pas être recueillie parce que le recueillement, c'est de repousser tout cela pour faire de la place à Dieu. Si, je prends un exemple qui va vous parler, si je fais un très bon repas bien arrosé, c'est difficile d'aller faire oraison à 14h. Parce que ma sensibilité désire son oreiller, sa sieste, plus que le prix du... c'est une évidence. Je me souviens une fois, un jeune qui me disait « j'arrive pas à prier », etc. Bon, je lui dis « comment tu fais ?» Il me dit « le soir, je me couche, j'éteins la lumière et je commence à vouloir prier. Et généralement, qu'est-ce qui se passe ?» Je lui dis « je connais la réponse, tu t'endors. » Il me dit « comment vous avez fait pour deviner ?» C'est assez simple, vous voyez, je ne suis pas dans les bonnes dispositions. Et donc, il y a des sécheresses qui viennent du fait que je ne suis pas dans la bonne disposition. Une des grandes dispositions, c'est aussi de nourrir notre sensibilité, de la nourrir pour qu'elle nous porte vers Dieu. J'aime beaucoup, alors là aussi je sors de saint Augustin, mais ce que dit un cistercien qui s'appelle le père Jérôme, qui est mort en 84, je crois. Il disait à ses moines, il a formé les novices de l'abbaye de Céphon pendant des années, et il leur disait... Si vous voulez prier, prenez un livre. Alors c'est surprenant comme conseil. Prenez un livre et lisez jusqu'à ce que vous ayez envie de prier. Alors j'aime beaucoup cette formule parce qu'il ne cherche pas à faire des grandes images. Quand vous avez envie de prier, fermez le livre et parlez à Jésus. Et voyez, en fait, ce qu'il nous dit, ici, la lecture a juste pour but de disposer la sensibilité, à nous donner envie de prier, à nous porter vers Dieu. La prière elle-même, ce n'est pas la lecture. La lecture, c'est préparatoire. Et la prière n'est pas une méditation sur ce que je viens de lire. Je ne cherche pas à avoir des belles idées sur ce que je viens de lire. Et donc, il recommandait à ses moines, en lecture spirituelle, de recopier des passages qui nous touchent, qui nous donneront envie de prier. Il disait, faites-vous un cahier sur lequel vous avez des cartouches pour vous donner envie de prier. Et je peux vous assurer, ça marche très bien. On arrive à la prière, à l'oraison, on sort son cahier, tac. J'ai envie de rien, je prends, je me souviens, ce bouquin, c'était pas mal. Hop, je lis mon petit passage. Ça m'a touché une fois, donc il est assez probable que ça me retouchera au moins une deuxième fois, peut-être une troisième. Je lis, je dis, ah mon Dieu, qu'est-ce que vous êtes bon quand même, Jésus. Et puis voilà, je lui parle, je prie. Donc vous voyez, parfois on est dans la sécheresse parce qu'on ne nourrit pas sa sensibilité suffisamment. Si je ne me forme pas, si je ne lis pas, je ne peux pas arriver, hop, je prie. Et ça va arriver tout seul. Il faut que je prépare ma sensibilité. Donc, vous voyez, il y a des sécheresses par excès de pollution, et il y a des sécheresses par inanition, parce qu'on n'a pas nourri sa sensibilité pour la porter vers Dieu. Et quelqu'un qui veut prier régulièrement, il doit avoir dans la poche un moyen de nourrir sa sensibilité. Voyez, un petit carnet avec 2-3 textes qu'on aime bien. Il faut avoir quelque chose qu'on puisse dégainer, une arme chargée, qu'on puisse dégainer à tout moment pour nous porter vers Dieu. Donc voilà pour les sécheresses. Mais il y a des sécheresses qui ne passent pas alors que Voilà, je lis, je fais attention à pas arriver à la prière avec la tête farcie de choses à faire ou de distractions. Et pourtant, je ne sens rien. Ça va pas. Je m'ennuie ou même je suis mal à l'aise pendant la prière. Et ici, on est vraiment dans le domaine de la purification. Et là, saint Augustin, il nous dit, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? L'homme qui est créature entre dans la prière du Christ qui le conduit jusqu'à Dieu. Sauf que moi, je ne suis pas Dieu. Et donc, plus je m'approche de lui, plus je suis surpris, et plus je suis ébloui, et moins je comprends. Et regardez, vous voyez, si je me mets au soleil pour bronzer, ce sera très agréable. Et voilà, ça c'est le début de ma prière. Puis si tout d'un coup je dis je vais regarder le soleil, j'ouvre les yeux, je me prends le soleil dans la figure, je suis ébloui, ça fait mal. Je me dis, ah, ça va pas. Il va falloir du temps pour que mes yeux s'habituent à la lumière. Et donc une purification, c'est un moment où je suis tellement décalé par rapport à l'union à Dieu, que c'est désagréable. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas uni à lui. Vous voyez, certains disent la purification, c'est Dieu qui nous fait mal pour nous purifier. Non, non, non. D'abord, Dieu ne veut pas que nous souffrions, mais il peut le permettre en nous disant, je t'attire vers moi, et pendant un moment, tu seras paumé. Ça sera désagréable, tu ne comprendras pas ce qui se passe. C'est ça une purification. Une purification, ce n'est pas une épreuve envoyée par Dieu. Hein, Dieu qui serait aux commandes et qui dirait « Je vais choisir d'envoyer, tac, une épreuve sur un tel. » Vous voyez le truc, le côté ridicule. Dieu ne fait pas ça. Mais je t'attire et ça sera difficile. Mais parce que tu seras plus proche de moi, il te faudra un temps d'adaptation. Une purification, c'est un temps de transition pendant lequel notre union à Dieu, nous nous sommes rapprochés de Dieu, notre union à Dieu s'est approfondie, mais nous ne sommes pas encore prêts à l'intégrer à tout notre être, et donc il y a une partie de notre être qui ne suit pas. Pour donner une image de cela, si un jour vous êtes allé à l'étranger, dans un pays que vous ne connaissez pas, avec une langue que vous ne connaissez pas, il faut un temps d'adaptation. Au début, on se sent complètement perdu, seul, on arrive à communiquer avec personne, voilà, c'est compliqué. Et puis, petit à petit, on comprend un peu les conversations, on comprend les réactions des autres, vous voyez, on s'habitue. Et donc, ce temps d'adaptation, c'est un peu comparable au temps de purification. Dieu m'attire vers lui et il parle une langue que je ne comprends pas encore. Et donc je suis perdu et j'ai l'impression qu'il m'a laissé. Sainte Thérèse d'Avila décrit ça abondamment. Et puis en particulier, elle décrit le fait qu'elle a l'impression d'être abandonnée par Dieu. Et puis quand à nouveau elle a repris conscience de sa présence, elle se rend compte que Dieu était particulièrement présent pendant cette période de purification, alors qu'elle avait la sensation inverse. Donc vous voyez, dans ces moments-là, ces moments de purification, il y a un déphasage, mais qui est une adaptation de notre part, qui n'est pas une punition divine. Et donc, saint Augustin décrit ça très bien en expliquant que nous ne sommes pas proportionnés à Dieu naturellement. Ouais, quand on veut faire rentrer deux pièces de puzzle qui ne sont pas proportionnées l'une à l'autre, ça force. Alors, il faut laisser Dieu nous creuser, nous transformer pour nous adapter à lui. Donc voilà, distraction, sécheresse, purification, trois difficultés possibles. Je voudrais finir en priant avec vous quelques morceaux de la prière finale là, du petit livre que vous avez. Donc c'est une prière qui vient d'un livre du livre des soliloques de saint Augustin. Les soliloques, c'est comme une grande prière. C'est un petit livre, mais qui est une longue prière. Et donc, je vais reprendre quelques éléments, parfois en les commentant un petit peu. Ô Dieu, se détourner de toi, c'est tomber, se convertir à toi, c'est se relever, demeurer en toi, c'est se conserver. Et voyez ici, dans ce constat, saint Augustin nous raconte sa vie. Première partie de sa vie, se détourner de toi, c'est tomber, c'est toute sa souffrance. Se convertir, se tourner vers toi, c'est se relever. Et demeurer en toi, c'est se conserver. Ô Dieu, se retirer de toi, c'est mourir. Retourner vers toi, c'est revivre. Habiter en toi, c'est vivre. Ô Dieu, personne ne te quitte s'il n'est trompé. Personne ne te cherche s'il n'est averti. Personne ne te trouve s'il n'est purifié. Je voudrais m'arrêter sur ce dernier membre de phrase. Personne ne te trouve s'il n'est purifié. Nous avons besoin d'être purifiés pour trouver Dieu en plénitude. Je passe un long passage et je vais un peu plus loin dans la page. C'est par toi que nous désirons de boire à cette fontaine qui doit nous désaltérer à jamais. Par toi, c'est toi le Christ. C'est par Jésus, c'est en Jésus que nous désirons boire à cette fontaine. Exos, exos, exauce-moi, ô mon Dieu, ô mon Seigneur, mon Roi, mon Père, mon Créateur, mon espérance, mon bien, ma gloire, ma demeure, ma patrie, mon salut, ma lumière, ma vie. Enfin, je n'aime que toi, je ne veux suivre que toi, je ne cherche que toi, je suis disposé à ne servir que toi. Toi seul as droit de me commander, je désire être à toi. Amen.
C'était la conférence du Père Michel Leclerc donnée à Pau le 27 février 2026 dans le cadre de l'école de prière selon saint Augustin.